Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique, présentée aujourd'hui par Jonathan Duong, soi-même.
Flight number 2, arriving from New York.
Et ben voilà, on est avec l'équipe du Monde Diplomatique du mois de février. Monde Diplomatique qui a retrouvé son lustre, c'est ce qu'indique un récent article du Monde. Le Monde Diplo se porte bien, le Monde Diplo se lit, se vend, bat des records d'abonnements et de ventes, et c'est une bonne nouvelle. Mais on va quand même commencer par se serrer la ceinture avec Razmi Kelchéian. Moi, je pensais que c'était avec François Fillon qu'on allait se serrer la ceinture. Voilà, plus d'argent, il faut moins dépenser, plus de fonctionnaires, plus de sécu. Mais non, c'est Razmi Kelchéian, voilà, qui veut qu'on se serre la ceinture, parce que Razmi, c'est un écolo. Donc, il sait que nos ressources naturelles sont limitées, donc il faut moins consommer, moins produire. Et donc, Razmi, il va encore m'engueuler, voilà, parce que j'ai mangé trop de viande, parce que j'ai pris ma voiture, parce que je me suis encore acheté, je sais pas quoi, un t-shirt hier. C'est ça, Razmi.
C'est ouais. Ça, c'est ça. C'est exactement ça. Non, plus sérieusement, la question des besoins qui est posée par l'article, c'est au contraire l'idée de distinguer entre des besoins qui sont... authentique en un sens qui reste à définir et des besoins qui sont artificiellement créés par le capitalisme et qui menacent aussi bien les écosystèmes que notre santé mentale d'une certaine manière. La question que j'essaie de poser dans l'article, c'est justement les raisons pour lesquelles d'une part le capitalisme crée des besoins artificiels en permanence nouveaux. Et la réponse est assez simple, c'est que le capitalisme est un système à la fois productiviste et consumériste qui ne peut pas vivre sans cette double logique-là. Et comment faire pour en sortir, quoi ? Alors, en sortir, c'est pas François Fillon, justement. En sortir, c'est créer des institutions, des instances dans lesquelles les individus se mettent à discuter de ce que c'est qu'un besoin légitime par opposition à un besoin illégitime et qui, par conséquent, rompent avec cette logique productiviste et consumériste. Donc, au contraire, ce à quoi appelle l'article, c'est un enrichissement des besoins, au contraire d'une austérité.
Bah alors, comment on définit quels besoins sont légitimes et quels besoins sont superflus dont on pourrait se passer ?
Bah, ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être une instance comme une bureaucratie ou un État qui fait une liste de besoins a priori et l'impose aux individus par en haut, en quelque sorte. La notion de besoin, c'est une notion qui, depuis les origines des sociétés humaines, de la philosophie, depuis l'Antiquité, est une notion contestée. Évidemment, il y a des besoins élémentaires, disons biologiques, vitaux, que l'on connaît tous, nourrir par exemple, se protéger du froid. Mais une fois qu'on a fait la liste des besoins vitaux de ce type, tout le reste est ouvert à la discussion, évidemment. Toute la question, c'est de savoir dans quel cadre on discute, comment est-ce qu'on discute. Il est évident que ça ne peut pas venir d'une bureaucratie, la définition de la liste des besoins légitimes. Sinon, ça conduit forcément à la dictature, une forme de dictature écologiste qu'il faut à tout prix éviter. Et l'idée, c'est par conséquent d'imaginer ce que seraient des formes politiques, des sortes de conseils à la base, quoi. C'est une logique conseilliste, d'une certaine manière, qui réfléchirait aux modalités d'une discussion, d'une délibération commune sur la nature des besoins authentiques, sur l'idée d'un enrichissement permanent des besoins, mais qui ne soit pas, encore une fois, des besoins qui sont artificiellement créés par le capitalisme pour nous vendre toutes sortes de marchandises inutiles.
Et alors, quelle forme pourrait prendre cette délibération
C'était inventé d'une certaine manière, dans la mesure où la crise environnementale est une crise un peu nouvelle à laquelle est confrontée l'humanité, il faut trouver les solutions qui elles aussi sont en partie nouvelles. Après, on parle pas de rien, si j'ai utilisé la notion de conseil. Les conseils ouvriers, c'est une grande tradition dans le mouvement ouvrier. Évidemment que les conseils ouvriers au 19e siècle ne se posaient pas la question du consumérisme de la manière dont on se la pose aujourd'hui, puisqu'ils n'avaient pas conscience, en tout cas pas dans les termes actuels, de la crise environnementale, et aussi des effets aliénants du consumérisme qui apparaît en gros dans la deuxième moitié du 20e siècle. Mais il est clair aussi qu'on peut s'inspirer de certaines traditions radicales à la base, socialistes, communistes, conseillistes, pour imaginer ce que peuvent être... par exemple, des instances de délibération où les individus viendraient à la fois témoigner de l'aliénation dont ils sont victimes du fait de formes d'achat compulsif, ça existe beaucoup, et où on discuterait en commun de manière d'en sortir. J'ai pas évidemment la réponse, c'est une réponse qui est à créer collectivement.
Parce que je vois que tu vas t'en prendre à mon smartphone, voilà, c'est ce que tu dis dans le papier, voilà, le smartphone.
J'en ai un moi-même, donc c'est l'une des raisons d'être de l'article, c'est aussi d'essayer de réfléchir aux contradictions dans lesquelles on est tous. Moi j'ai un smartphone, t'en as un, est-ce que le smartphone en lui-même est un objet à bannir à l'avenir, ou est-ce que c'est certaines formes et certains usages du smartphone qui sont à bannir?
Bon, ouais, parce que moi avec mon smartphone je vais sur le site du Monde Diplomatique, je vais sur le site de là-bas si j'y suis, et voilà, je fais pas que...
Absolument, tu en as un usage tout à fait constructif et politiquement utile. Non, on a tous ces usages-là. Le paradoxe des technologies, des nouvelles technologies, pour certaines d'entre elles en tout cas, c'est qu'il y en a des usages qui sont évidemment néfastes sur le plan environnemental, sur le plan de la santé mentale, etc. Mais il y en a des usages qui sont aussi des usages subversifs, utiles politiquement, qui permettent de diffuser de la pensée, comme quand quelqu'un lit le Monde diplomatique, ou comme quand on se donne rendez-vous pour faire une manifestation, voire une révolution en utilisant les réseaux sociaux, ça existe évidemment. Donc toute la question est de parvenir à distinguer collectivement et de manière dialogique, en dialoguant, ce qui relève d'un usage aberrant, néfaste, écologiquement intenable, et d'usages qui sont politiquement constructifs. Je pense que c'est tout à fait possible de le faire, mais il ne faut pas se dire que les besoins sont quelque chose qu'on définit a priori une fois pour toutes, et qu'ensuite on met ça en application en l'imposant aux populations par en haut, en quelque sorte. Ça, c'est typiquement la logique du capitalisme. Le capitalisme fait que les besoins, la liste de vos besoins supposés est définie par des entreprises multinationales, et ensuite, par l'entremise de la publicité, par l'entremise du crédit, par l'entremise de ce qu'on appelle aussi l'obsolescence programmée, qui vous conduit en permanence à acheter des nouveaux smartphones, évidemment. Donc toute la question, c'est pas tellement de se débarrasser une fois pour toutes des smartphones, mais de penser ce que serait un smartphone durable, par exemple. Voilà une question importante.
Si vous n'avez pas un iPhone, vous n'avez pas l'App Store. Avec la plus large sélection d'applications au monde. Aussi facile à trouver qu'à télécharger directement sur votre téléphone. Pour qu'ils deviennent presque tout. Par exemple, votre billet de train. Ou fasse presque tout. Comme vous aider à faire des économies. Mais bon, si vous n'avez pas un iPhone, eh bien, vous n'avez pas un iPhone.
Comment on contraint Apple à fabriquer un iPhone durable ?
Ça ne peut pas du tout être Apple sous sa forme actuelle, ça peut en aucun cas évidemment être une multinationale. Ce que font ces multinationales, c'est en fait capter l'intelligence collective humaine et la mettre au service du capitalisme. Mais cette intelligence collective humaine, ce n'est pas Apple qui l'a créée. Ces ingénieurs, ces savoirs scientifiques qui convergent vers la production du smartphone, c'est des choses qui existent indépendamment d'Apple et qu'il faut d'une certaine manière émancipé de l'emprise du capital et en l'occurrence de l'emprise d'Apple. C'est pas du tout Apple ou Microsoft ou etc. qui créent ces savoirs-là. C'est des savoirs qui sont créés dans les laboratoires de sciences et d'informatique et d'ingénierie qui sont pour la plupart d'ailleurs souvent financés par l'État, c'est-à-dire par les contribuables, voilà. Et qui sont captés par la logique du capitalisme. Donc ce qu'il faut, c'est séparer les deux tout simplement. Voilà. Alors tout simplement, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais encore une fois, il y a une dimension technique à tout ça, bien sûr, je ne le nie pas, mais cette dimension technique, elle peut être encadré par la délibération politique, par des lois aussi, bien sûr, et ce faisant, conduire à la durabilisation, en quelque sorte, d'objets techniques qui, aujourd'hui, en effet, ont une obsolescence qui est programmée à environ 2 ans pour un smartphone. C'est quelque chose de cet ordre, de 3 ans.
C'est-à-dire que les entreprises font en sorte que mon smartphone tombe en panne et que l'écran
évidemment, aujourd'hui, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui s'enseigne carrément dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui. Donc c'est tout à fait clair. Il y a même une loi d'ailleurs, c'est la loi Hamon en France, puis la loi sur la transition énergétique,
alors parlons-en. Benoît Hamon.
Enfin quelqu'un de bien, qui introduit depuis 2013 ou 2014, pour la première fois dans le droit français, cette notion d'obsolescence programmée. Et donc qui est supposée permettre à des consommateurs, entre guillemets, d'intenter des sortes de class actions à la sauce française, si vous voulez, car ils se sentiraient lésés par justement l'obsolescence programmée de leur smartphone, etc. Alors pour l'instant, ça ne donne aucun résultat, parce que
il n'y a pas eu de
c'est purement symbolique et que ce n'est pas du tout mis en œuvre, mais pourquoi pas, c'est une piste à explorer. Le droit ne peut pas tout, loin de là. Derrière le droit, il y a des rapports de force politiques, et donc c'est ces rapports de force politiques qu'il faut changer de manière primordiale, mais l'instrument du droit peut servir aussi à contraindre des entreprises comme Apple ou d'autres. Par le passé, il est évident que les grands monopoles, à d'autres époques, ont été cassés, fragmentés, à la suite de mouvements sociaux qui ont débouché sur des réformes législatives. Il n'y a aucune raison de penser que ça ne puisse pas arriver dans les années ou décennies qui viennent. Il faudra un peu plus que Benoît Hamon pour cela. Il faudra derrière Benoît Hamon et d'autres représentants de ce type, des mouvements sociaux puissants, qui se posent les bonnes questions.
Mais alors, il y a une question de classe. Quand j'ai lu ton papier, je me suis dit, c'est encore un truc de riches qui veulent, les riches qui ont tout, et qui veulent dire aux pauvres ce dont ils doivent se passer. Un peu comme pour l'écologie, on voit les pays riches qui ont fondé leur richesse sur un développement, une production, une pollution, et qui maintenant vont dire aux pays en développement le charbon c'est pas bien, produire ça pollue, et donc il faut y aller mollo sur la pollution, alors que les pays riches ont pollué pendant 100 ans, 150 ans.
Tout à fait, c'est une logique que l'on trouve dans certains courants de l'écologie, que l'on retrouve dans les grandes arènes internationales comme les conférences sur le climat, cette approche de l'écologie qui consiste en effet à rendre responsable des mots écologiques, des gens qui en sont par ailleurs victimes. En fait, dans un travail précédent, donc ça c'est un peu la suite de ce travail, j'avais travaillé sur la notion d'inégalité environnementale, c'est-à-dire sur la manière dont, selon la classe sociale à laquelle on appartient, on est plus ou moins victime, par exemple, des pollutions, des catastrophes naturelles, etc. Or, il est très facile de démontrer que les principales victimes de tous ces problèmes environnementaux, par exemple les ouragans, les cyclones, etc., mais aussi les pollutions, la pollution de l'air en région parisienne, sont des personnes qui appartiennent aux classes populaires et qui sont par ailleurs victimes de toutes sortes d'autres formes d'inégalités. La conclusion est très simple, c'est que la question écologique est une question de justice sociale. En d'autres termes, pour formuler la question environnementale dans des termes qui soient vraiment productifs politiquement, il faut la lier inextricablement à la question des inégalités, de leur dynamique et de leur réduction, en réalité. C'est ce que fait, par exemple, un mouvement comme le mouvement pour la justice environnementale, qui existe, par exemple, en Amérique latine, en Amérique du Nord, et qui essaye de lier la question sociale avec la question environnementale. Il faut faire pareil sur la question des besoins.
Merci Razmig.
Merci à toi.
Et on va se pencher sur le manifeste Négawatt. C'est ça qu'il faut lire.
Négawatt, c'est un excellent manifeste qui est rédigé par des ingénieurs, des spécialistes de l'énergie, et qui est un manifeste comme certains autres, mais c'est l'un des plus intéressants, l'un des plus cohérents. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je trouve que c'est une base de discussion tout à fait passionnante, et qui fait des scénarios sur la transition énergétique, et qui essaye d'imaginer ce que seraient les contours d'une société future qui irait vers davantage de sobriété en termes de consommation énergétique. Donc c'est vraiment des formes d'utopie, mais des utopies concrètes, quoi, qui sont rédigées non pas par... des gens qui se réclameraient nécessairement d'un communisme utopique, mais par des spécialistes de l'énergie, et qui font de manière très chiffrée, très sérieuse et rigoureuse, justement des scénarios sur la trajectoire des dépenses énergétiques. Mais par là même, ils s'aperçoivent que ça suppose de refondre de fond en comble la structure des sociétés, en quelque sorte. Parce que les dépenses énergétiques contre lesquelles lutte ce manifeste, et contre lesquelles luttent les mouvements écolos, sont en fait inextricablement liées à la dynamique du capitalisme. Donc se poser la question d'un futur plus sobre en termes énergétiques suppose, par là même, qu'on le veuille ou non, de poser la question du rapport entre le capitalisme et la crise environnementale. Et c'est ça qui est très beau dans ce manifeste Négawatt, c'est que c'est pas forcément des gens qui sont très radicaux sur le plan de leur proposition politique, mais la radicalité, elle vient en quelque sorte de leur proposition elle-même, quoi. Donc j'invite les auditeurs à lire ce manifeste, c'est vraiment tout à fait édifiant, et c'est écrit dans un... Alors, parfois c'est un peu technique, mais pour l'ensemble, c'est écrit quand même dans un langage... Moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'énergie, et j'ai compris, je crois, l'essentiel de ce qu'il y avait à comprendre.
Merci Razmig.
Merci à toi.